France Culture, question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir, consacré ce soir à la ville et aux familles monoparentales. Des familles en France, c'est une sur quatre, sont monoparentales. Et ces parents solo, comme on les appelle parfois, sont pour plus de 80% d'entre eux des mères, des femmes qui voient leurs conditions de vie se détériorer entre la gestion des enfants, du travail, des loisirs ou des transports. Une réalité prise en compte par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années à travers des dispositifs d'aide et de soutien, mais qui ne semble pas suffire. Année après année, les statistiques nous rappellent que la lutte contre la pauvreté des familles monoparentales est loin d'être gagnée. Alors à un an des élections municipales, nous avons souhaité explorer dans Question du soir ce que pouvaient les villes pour ces familles, pour ces femmes seules et souvent isolées. Faut-il une politique de la ville des parents solos? L'échelle de la ville est-elle la mieux adaptée pour accompagner ces familles? Et comment les familles monoparentales transforment-elles même les villes? Voici quelques-unes des questions que nous poserons ce soir à nos quatre invités. Et avec nous pour en parler, Monia Lisa Douadi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice et présidente de l'Association des familles monoparentales, également administrative de la Fédération syndicale des familles. Merci d'être avec nous. À vos côtés se trouve Daniel Cornalba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire sans étiquette, je le précise, de L'Étang-la-Ville dans les Yvelines, coprésident du groupe de travail sur la petite enfance à l'AMF, l'Association des maires de France. Merci également d'être venu à Radio France. Enfin, à distance, deux invités, Corinne Luxembourg. Bonsoir. Bonsoir Corinne Luxembourg, vous êtes professeure de géographie et aménagement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez publié « Les sens de la ville pour un urbanisme de la vie quotidienne ». C'était un livre collectif paru en 2020 aux éditions Le Temps des Cerises. Et enfin Hélène Périvier, bonsoir. Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Vous êtes en charge de l'évaluation des politiques sociales et familiales. Vous présidez également le Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille à l'enfance et à l'âge. Et vous aviez publié également en 2020 « L'économie féministe », c'était aux presses de Sciences Po. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation sur France Culture. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
Eh ben moi, c'est Aude, donc 44 ans, maman d'une petite fille, Romy, qui a 21 mois. Il n'y a pas de papa, il ne l'a pas reconnue. Donc, je m'en occupe tout le temps, toute seule. J'ai fait un espèce de burn-out, trop, en fait, à tout gérer, 35 heures, la crèche qui avait limité les horaires, j'avais une babysitter en plus, enfin, c'était la course. J'avais perdu vachement de kilos, enfin, mon médecin m'a dit, bon, là, je t'arrête.
Une avalanche de factures où, en fait, vous en êtes au point de où la banque vous dit, stop, on arrête tout. J'associe vraiment les deux termes, famille monoparentale avec charge, hein, ça va de pair, hein, pour moi.
Il y a 10 ans, les familles monoparentales n'avaient pas forcément besoin du secours populaire, sauf pour les vacances et tout ça, mais pour l'alimentaire, pas forcément besoin, puisque ce que leur donnait la CAF et puis autres leur suffisait pour vivre.
Avant, avec 50 euros, je pouvais acheter de la viande pour un mois. Là, 50 euros, ça ne me fait même pas une semaine. En fait, j'ai essayé de travailler au début, donc en intérim. Donc, à cette époque, j'avais qu'un enfant. Mais quand tu vois que tout ton salaire va chez la nous, c'est un peu compliqué.
Aujourd'hui, plus d'un tiers des personnes qui touchent le RSA sont des femmes seules avec enfants. Et donc, je crois qu'il est important aujourd'hui que nous adaptions notre système institutionnel, notre système social, notre système de logement, notre système fiscal à cette révolution de la monoparentalité et que nous redonnions de la dignité à toutes ces mères, quand même très souvent des mères, toutes ces mères seules, ces mères célibataires qui vivent dans de graves difficultés.
Voilà, et nous venons d'entendre des témoignages issus d'un documentaire « Maman solo, les oubliés de la République » disponible sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Également, l'intervention de Philippe Brun, député socialiste de la 4e circonscription de l'Eure, également conseiller municipal à Louviers, qui venait sur ces questions-là. Alors, pour commencer cette émission, Hélène Périvier, peut-être pouvons-nous revenir sur la définition elle-même de famille monoparentale, famille qui longtemps n'ont pas eu de nom, des familles sans nom, sans qualification dans l'espace social.
Ça, c'est sûr que la façon dont on détermine cette situation qui est un parent, donc ça a été dit le plus souvent, une femme qui élève le plus souvent seul, en tout cas qui a la charge principale des enfants et la garde principale des enfants. Le terme a changé. Hein. Si vous regardez les années 50, on parlait souvent de fille-mère. Et puis après, on a parlé de parents isolés, de mères isolées. Et là, on parle de famille monoparentale, qui est peut-être pas appropriée parce que malgré ce qu'on a entendu, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de père qui a reconnu l'enfant. Mais le plus souvent, c'est le fruit d'une séparation. Donc, il y a un autre parent. On parle plutôt de foyers monoparentaux parce que le plus souvent, eh bien, un parent, la mère, aura la garde principale de l'enfant ou des enfants et donc aura la charge d'aménager son temps. Et puis, on va revenir dessus, mais avec des questions matérielles très importantes pour ces familles qui sont beaucoup plus affectées par la pauvreté que l'ensemble des ménages.
À quel moment, Hélène Périvier, et puis je donnerai la parole ensuite à Monia-Lisa Douadi, à quel moment est-ce que la politique intègre cette notion de famille monoparentale dans les politiques familiales ?
Ben, je pense qu'en France, il y a un grand tournant au milieu des années 70, déjà de façon générale en matière de politique familiale avec la reconnaissance de la parentalité partagée entre les deux parents, puisqu'avant c'était vraiment le patriarcat avec le père qui avait l'autorité parentale, et puis aussi avec la création et la reconnaissance très progressive, hein, mais avec l'introduction de l'allocation parents isolés en 1976, qui est la reconnaissance que ces familles, en tout cas les parents isolés, les mères isolées, ont une situation de plus grande précarité et de vulnérabilité que les autres. Donc c'est une allocation qui a été ouverte jusqu'aux 3 ans de l'enfant, qui aujourd'hui en fait existe toujours, mais s'appelle le RSA majoré. Et donc à partir de là, on peut dire que progressivement, des politiques publiques vont se déployer, même si elles restent insuffisantes, à la fois spécifiquement ciblant les familles monoparentales ou adaptant des prestations qui sont ouvertes à l'ensemble des ménages. Je pense notamment, par exemple, le RSA, il y a des suppléments pour familles monoparentales, des allocations logement, la demi-part supplémentaire pour isolement dans l'impôt sur le revenu. Voilà, il y a tout un dispositif qui se met en place progressivement, qui reste encore insuffisant, je pense qu'on va en parler, mais qui quand même montre qu'il y a une forme d'adaptation de l'État social à cette montée en charge du nombre de foyers monoparentaux.
Monia-Lisa Douadi, c'est la précarité d'abord qui définit le foyer monoparental, ces familles monoparentales, comme on a pu peut-être l'entendre dans les mots d'Hélène Périvier.
Alors, je suis d'accord avec Hélène Périvier, évidemment, on connaît son travail, si ce n'est sur l'histoire au regard, enfin la situation des familles au regard des impôts, dans la mesure où n'importe quelle typologie de famille séparée peut cocher la casté, y compris les gardes alternées. Donc effectivement, il y a des avancées, il y a eu beaucoup d'avancées sociales, mais il y a encore aujourd'hui peut-être une problématique sur la définition et vraiment comment circonscrire une famille monoparentale. Et la précarité, en effet, c'est un vrai sujet pour les familles monoparentales, étant donné qu'aujourd'hui, 40% des familles monoparentales, des foyers monoparentaux, vivent sous le seuil de pauvreté.
C'est le double que le reste,
tout
que la moyenne nationale française selon l'INSEE. Ouais.
Effectivement, avec tout un... Ça, évidemment, on va certainement revenir dessus, mais avec tout un tas d'inégalités sur le plan du logement, sur le plan du travail, avec beaucoup d'emplois en temps partiel subis ou en temps décalé, avec tous les problèmes de garde que ça peut entraîner. Donc oui, la précarité, c'est le premier danger qui guette les familles monoparentales, ou en tout cas les femmes, au moment de la séparation, puisqu'en plus, en moyenne, elles perdent 20% du revenu par rapport à l'homme pendant la séparation.
Alors justement, hein, vous parlez des femmes, c'est vrai qu'il y avait une expression ancienne qui ne s'utilise plus, qui était celui de mère célibataire. Et aujourd'hui, on a changé de vocable, on parle plus de famille monoparentale, de foyers monoparentaux. Est-ce que cela cache la réalité que c'est 80% des femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, ou pas? Qu'en pensez-vous, Monia-Lisa Douadi? Et puis, on y viendra après, Daniel.
Alors, en réalité, nous, on a choisi de nous appeler l'association des familles monoparentales pour la bonne et simple raison qu'on ne souhaite ni stigmatiser, ni essentialiser ces situations. Parce qu'en réalité, il y en a. Il y en a peu, hein, on est d'accord. C'est vraiment 85 à 90% de femmes qui sont parents célibataires. Mais on ne veut pas invisibiliser toutes les autres situations. C'est très important. D'autre part, pour ce qui est de... excusez-moi, votre question, c'était...
Non, toujours sur cette question de définition un petit peu, parce que voilà, le vocable de mère célibataire...
Oui.
A disparu.
Alors, mère célibataire, pour nous,
de l'espace public,
dans l'association, on a plutôt affaire à des femmes qui sont célibataires et qui sont mères par choix, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Il y a un livre qui est sorti cette année qui s'appelle Mère Solo, dans lequel une journaliste raconte aussi son combat. Et ça, il y a aussi des associations de mères. Voilà, de mères solo, exactement. Johanna Lucène, pour ne pas la citer, Mère Solo.
J'ai bien la citer.
Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, il y a aussi dans la collective des mères isolées, dans l'association Mames en Solo, des femmes qui décident d'être monoparents par choix. Donc, mère célibataire, pour nous, cette définition, elle est plus liée à ces profils-là. Madame Périvier parlait, Hélène Périvier parlait des filles-mères qui renvoient à des situations de jeunes filles qui tombaient enceintes hors mariage, avant le mariage ou hors mariage. Donc aujourd'hui, foyer monoparental, ça nous semble somme toute être factuel, quoi.
Alors Daniel Cornalba, si vous deviez dresser un portrait repos du foyer monoparental dans votre ville, je rappelle que vous êtes maire de L'Étang-la-Ville, à quoi est-ce que ça correspondrait? À gros traits, évidemment, puisque chaque situation est particulière.
Oui, j'allais dire, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, sur le fait qu'il y a une grande diversité des familles, et on voit qu'il y a une évolution du modèle familial lui-même, mais que les familles monoparentales en elles-mêmes aussi recouvrent une grande diversité, et que le but, c'est pas non plus d'opposer ces différents modèles familiaux, entre guillemets. C'est toujours dur de dire, y a-t-il un modèle spécifique? Ce qui est certain, c'est que ça a longtemps été un angle mort des politiques publiques, et effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur le sentiment que les familles monoparentales longtemps ont été aussi invisibilisées dans le débat public. Et donc les collectivités, en particulier les communes, ont assez vite été aussi tout simplement confrontées à cette réalité. Et c'est pour ça qu'on a cherché aussi à y répondre. Pour répondre très directement à votre question, ce sont effectivement plutôt des femmes, ces familles monoparentales auxquelles je peux être confronté, en tout cas que je rencontre, qui m'interpellent. Ça va être des situations très diverses. Ça peut être des horaires décalés, effectivement. Ça peut être une mère avec 2-3 enfants. Je pense qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots. Et donc, je pense au cas d'une mère en particulier qui élève 2 enfants et qui est venue me voir un peu en urgence parce qu'en fait, son compte en banque avait été piraté. Et qui me dit, je suis dans une situation, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas le relais d'un deuxième parent, en quelque sorte, pour m'appuyer sur ce compte en banque, avec cette réalité assez cruelle que sans compte en banque, il n'y avait pas non plus de salaire. Et donc, des impayés qui s'accumulaient. Et donc, la question était très concrète. Dire, monsieur le maire, que peut-on faire? Et donc, on a essayé en urgence, par exemple, c'est un exemple concret aussi de réponse, de mettre en place un chèque emploi-service, en tout cas, lui permettre de payer en chèque emploi-service, c'est-à-dire, entre guillemets, de pouvoir limiter, échelonner ses impayés, en quelque sorte, de pouvoir un peu avoir la tête au-dessus de l'eau, s'en sortir. Je ne dis pas que ça change la vie, mais le but, c'était de simplifier la vie. Et j'en viens simplement au point de la diversité des familles, c'est que ce que l'on a mis en place spécifiquement à ce moment-là pour une famille monoparentale, en vérité derrière a bénéficié à beaucoup d'autres familles, y compris qui ne sont pas monoparentales. Mais c'est pour dire que finalement quand on s'attaque à certaines situations, qu'on essaie d'y répondre, en vérité ça peut aussi finalement profiter à une diversité de modèles familiaux.
C'est-à-dire que la précarité engendrée peut être visible, on vient vous voir dans des questions de monoparentalité, va aider la lutte contre la précarité en général, en tout cas sur l'échelle de votre commune. Corinne Luxembourg, je rappelle, vous êtes professeure de géographie et aménagement à l'université Sorbonne Paris Nord. Quelles sont concrètement les difficultés que rencontre par exemple une femme qui élève seule ses enfants en ville? Comment est-ce que la ville est adaptée ou inadaptée à cette situation?
La situation qui va se trouver pour des femmes chefs de famille monoparentales, ça va être pour une bonne part la même chose que pour n'importe quelle femme, c'est-à-dire les difficultés à être dans l'espace public. Et donc avec tout ce qui va aller avec le fait d'être une femme dans l'espace public, c'est-à-dire être chargée des courses, du ravitaillement de la maison, etc. Plus toutes les questions de précarité dont on vient de parler. Ce qui veut dire que dans le déplacement même des femmes en ville, dans l'espace public, vont s'ajouter le fait d'aller chercher les enfants à l'école s'ils sont petits et pas suffisamment autonomes pour pouvoir rentrer seuls. Si les revenus sont trop bas, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Donc, ça va limiter aussi à des emplois, souvent à des emplois à temps partiel. Et ça aussi, ça va venir gréver le budget, puisque si les emplois sont à temps partiel, le salaire l'est également. Donc, il y a là, dans le déplacement, même dans l'espace public, une relation directe entre le fait de devoir accompagner une tierce personne, donc en l'occurrence leurs enfants pour la majorité d'entre elles, à des occupations parascolaires par exemple, au fait de les accompagner au foot pour certains enfants ou aux activités culturelles ou que sais-je, plus aller faire les courses, plus avoir un emploi rémunéré, un travail rémunéré pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille dans son ensemble. Ce qui veut dire, pour revenir sur les questions de logement dont on disait tout à l'heure à quel point c'est compliqué, qu'à partir du moment où on a un seul salaire, que les logements, en tout cas que les loyers sont comme ceux que l'on connaît aujourd'hui en région parisienne, mais ailleurs également, hein, dès qu'on est dans des villes un peu importantes, les loyers sont compliqués. En tout cas, c'est compliqué à accéder à un logement parce qu'il faut trois fois au moins le coût du loyer. Et puis après, il faut pouvoir l'acquitter comme il faut. Et on voit aussi que la diminution du nombre de logements sociaux, ou en tout cas la difficulté que l'on a globalement sur la totalité du pays à construire des logements sociaux en quantité suffisante pour l'ensemble de la population, hein, c'est 75% de la population française qui est éligible au logement social, on voit que les premières qui sont touchées par ce manque de logement avec un loyer abordable, c'est les familles monoparentales et aussi les femmes âgées qui ont des retraites et qui sont souvent amputées de 33 à 40% par rapport aux retraites des hommes. Donc on voit bien que là, on a une inégalité de genre qui se joue, y compris dans les circulations, dans les mobilités de l'espace public, pour aller faire les courses, etc., mais aussi pour pouvoir se loger. Et comme aussi, souvent, c'est très compliqué d'avoir accès à une voiture, déjà au permis de conduire, mais aussi à la voiture, on se rend compte que les femmes, et en particulier dans les familles monoparentales, il y a une dépendance au fait d'avoir quelqu'un d'autre qui soit propriétaire d'une voiture ou dépendant des transports en commun qui parfois sont un peu plus longs pour accompagner et faire les courses. Et puis ça engendre aussi tout un tas de problèmes logistiques. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'au quotidien, c'est compliqué.
Hélène Périvier, vous souhaitez réagir, mais également ensuite Daniel Cornalba et Monia Lisa Douadi. Tout le monde lève la main autour de cette table. Hélène Périvier d'abord, s'il vous plaît.
Oui, je voulais juste rebondir sur la diversité des situations, parce que les politiques publiques, je pense notamment à une prestation qui cible particulièrement les foyers monoparentaux, qui est l'allocation de soutien familial, elles essayent de prendre en compte cette diversité. Il y a l'allocation, l'ASF, qui est dite recouvrable quand le parent débiteur, donc celui qui n'a pas la garde des enfants, ne paie pas la pension. Il y a l'allocation de soutien familial non recouvrable lorsqu'il n'y a pas de second parent, parce que le père ne l'a pas reconnu ou parce qu'il y a abandon. Ou parce que le parent débiteur n'est pas solvable. Et puis, il y a l'ASF complémentaire. C'est des éléments très importants parce que cette prestation elle a été beaucoup augmentée récemment. Et l'ASF complémentaire, ça permet d'avoir un niveau de pension minimal par enfant qui est à peu près de 200 euros par mois par enfant. C'est quand même une grande avancée.
Et dont le versement est supprimé en cas de remise en couple.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc il y a la diversité des situations, mais ensuite, il y a des parcours de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément parent isolé toute sa vie. Et c'est vrai que les politiques publiques, elles essayent de s'adapter à cette multiplicité de configurations, mais qui changent aussi dans le temps. Et c'est pas évident de faire la part entre les solidarités privées et les solidarités publiques. Et c'est vrai que quand il y a remise en couple, souvent, il y a perte de prestations, en particulier l'allocation de soutien familial est perdue. Donc il y a vraiment à la fois la volonté de coller au mieux à la réalité des gens, mais aussi quelque chose qui est assez complexe, qui est de pouvoir suivre cette diversité en accompagnant au mieux les difficultés que ses parents rencontrent.
Monia Lisa Douadi, vous souhaitez réagir peut-être sur les questions d'inégalité de genre qui s'accumulaient aux inégalités créées par la situation de foyer monoparental.
On a coutume de dire, je rejoins évidemment ce que vient de dire Hélène Périvier en premier lieu,
pour dire que s'enchevêtrent, oui.
Ouais, en effet, les familles monoparentales vont souvent bénéficier des dispositifs, on va dire, de droit commun, mais de façon assez mécanique, puisqu'elles sont surreprésentées dans les couches les plus pauvres. C'est évident. Même s'il y a des choses spécifiques. Là, par exemple, on a eu l'extension du complément mode de garde jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Même si c'est sujet à beaucoup de questionnements. D'ailleurs, nous, on a échangé avec le ministère à ce sujet pour les calculs qui sont pas forcément toujours favorables.
Qui était jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Voilà, hein, passer à 12, non mais je vous en prie.
Tout à fait, mais effectivement tout dispositif qui impactera la pauvreté, qui arrangera la pauvreté, améliorera les conditions de vie, impactera les familles monoparentales. Je voulais juste réagir sur ce que disait Madame sur la partie logement et espace de la ville. Juste sur la partie logement, plus d'un quart des familles monoparentales vivent en situation de mal logement en France. Les familles sont représentées à 40% logées dans le parc social, contre seulement 14% pour les familles traditionnelles, et seulement 12% des familles monoparentales sont propriétaires, contre près de 48% pour les couples.
Le logement, justement, c'est l'échelle de la ville, Daniel Cornalba.
Totalement, j'allais réagir en donnant un exemple très concret. C'est peut-être un pas de côté, mais c'est la question des données dont on dispose. C'est-à-dire que quand on est décideur, pour pouvoir prendre une décision réfléchie, la question c'est quelles sont les données, quelle est la cartographie dont je dispose, de la situation des familles dans ma ville.
En l'occurrence, là, on a l'impression, en écoutant Monia Lisa Douadi, Corinne Luxembourg, Hélène Périvier, que les données ne manquent pas.
Alors oui et non, parce que effectivement, on a énormément de données. Après, il y a des disparités entre territoires. Vous êtes à Montpellier, vous aurez à peu près 40% de familles monoparentales. Dans d'autres territoires, ce sera moins. Voilà, ce sont évidemment des moyennes. Donc, il peut y avoir des
40%,
différences.
40%, c'est presque une famille sur deux.
Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est les données INSEE, les données CAF, donc des caisses d'allocation familiale, dont vous disposez quand vous êtes maire, il y a généralement toujours un décalage de 3 à 5 ans. Et ce n'est pas pour porter l'anathème sur l'INSEE ou sur la CAF. Ils font un travail extrêmement important. Mais le temps de recouper les informations, etc., il y a un décalage important. Pourquoi je donne cet exemple ? Quand j'ai été élu maire en 2020, avec les élus en charge des affaires sociales notamment, on a été assez frappé de constater une résidence était sur le point d'être livrée, qui correspondait à peu près à 10% de la population, dont une part importante, y compris de logement social. Il se trouve que la décision de construire a été prise en 2015 sur la base de données de composition familiale qui relevaient quasiment de 2010. Donc vous imaginez bien qu'au moment où vous attribuez les logements en 2020, il y a quasiment 10 ans qui se sont passés, en tout cas 5 ans par rapport à la décision de construire. Pourquoi ? Ça peut paraître un détail, on peut se dire, mais pourquoi on s'enferme dans des chiffres ? Parce que très concrètement, derrière, les typologies de logements qui avaient été construits étaient pour l'essentiel des T4 et des T5, plutôt des logements assez importants, prévus pour des familles, si ce n'est nombreuses, mais en tout cas des appartements plutôt importants, là où les demandeurs actualisés qui nous demandaient finalement un logement social, demandaient eux plutôt des T1, des T2, voire des T3, parce que vous aviez dedans beaucoup de familles monoparentales. Je le dis simplement parce qu'en fait, la sociologie évolue. Et donc, c'est un des plaidoyers que l'on a à l'Association des maires de France. C'est aussi finalement la question de l'instantanéité, ou en tout cas de l'actualisation rapide des données, pour pouvoir adapter nos politiques aux réalités du terrain.
Juste pour rebondir sur le logement social, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le critère de monoparentalité n'entre pas dans les critères d'attribution, je parle du CERFA national, et que chaque municipalité a l'opportunité d'y adjoindre 4 ou 5 critères, comme la ville de Paris le fait par exemple.
Je confirme.
Donc, non, parce que vous me parlez de T2 pour les familles monoparentales, ça c'est un problème sur lequel on travaille énormément, c'est-à-dire que les propositions de logement ne tiennent pas compte de la composition familiale.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
On s'est rendu compte que nous avions 30% de familles monoparentales à Ris-Orangis. Les 21 mesures concernent tous les champs de la vie, mais notamment la question du droit au logement, la question du droit à la santé, le parcours aussi d'insertion professionnelle, mais aussi le droit au répit, parce que souvent les familles monoparentales, les parents solos sont épuisés. Nous avons un lieu dédié aux enfants qu'on appelle le 10. Et ce lieu sera aussi le lieu du répit pour les familles monoparentales. C'est-à-dire que l'enfant pourra avoir une activité à forte plus-value pédagogique en même temps que le parent pourra lui aussi se livrer aux activités qu'il souhaite.
Alors, vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir aux familles monoparentales et de ce que peuvent les villes pour s'adapter aux familles monoparentales avec Monia Lisa Douadi, fondatrice et présidente de l'Association des familles monoparentales, Daniel Cornalba, maire de L'Étang-la-Ville, coprésident du groupe de travail sur la petite enfance et l'Association des maires de France, Corinne Luxembourg, professeure de géographie et aménagement à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, et Hélène Périvier, économiste, directrice de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques, le bien connu au FCE. Et nous venons d'entendre la voix du maire de Ris Orangis, qui a mis reconnu pour avoir mis en place toute une série de mesures pour les familles monoparentales, avec la principale d'entre elles, qu'on n'a pas entendue dans l'extrait, qui est la création d'un statut spécial pour les familles monoparentales. D'abord, Hélène Périvier, qu'est-ce que c'est que ce statut spécial ? Est-ce que cela fait partie des recommandations, par exemple, que vous faites à l'HCFEA ?
Alors, ce n'est pas une recommandation qu'on a faite, mais c'est vrai que c'est une initiative qui est assez intéressante dans la mesure où ça permet d'avoir une forme de systématicité dans l'attribution de certains droits ou de, par exemple, la tarification sociale de la cantine. Vos revenus peuvent évoluer, mais le fait d'avoir ce statut, ça peut garantir une forme de stabilité, de visibilité des différentes charges qu'ont ces familles-là. Et puis, je pense qu'un autre côté qui peut être assez intéressant, c'est de lutter contre le non-recours. On a un gros problème en France en général, mais c'est vrai aussi des familles monoparentales, c'est le non-recours aux prestations sociales. J'ai parlé de l'ASF complémentaire, par exemple. On sait qu'il y a un non-recours très important, ce qui veut dire un niveau de vie très amoindri des familles monoparentales et donc des enfants, du niveau de vie des enfants derrière. Et donc ça, c'est un élément assez intéressant de pouvoir essayer de systématiser l'accès aux services et l'accès aux prestations sociales afin de garantir un niveau de vie minimal.
C'est-à-dire que c'est inversé, hein, c'est ça que vous dites, c'est aller vers les familles en leur proposant, en leur expliquant leurs droits, en leur expliquant les possibilités, ce à quoi elles peuvent avoir, accéder, c'est ça que vous voulez dire, Hélène Périvier?
Il me semble que dans les initiatives du maire qu'on a entendu, il y avait l'idée d'avoir des personnes qui permettent d'accompagner les parents isolés pour essayer de faire la demande de l'ensemble des droits auxquels elles ont droits, plus souvent des femmes, donc pouvoir essayer de les aider dans leurs démarches qui sont parfois compliquées, qui sont parfois douloureuses aussi, hein, parce que quand on vient de se séparer, que la séparation se passe pas mal, pour les cas aussi de violences intrafamiliales, c'est des moments où c'est très difficile pour la mère isolée de faire des demandes de prestations sociales. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Au moment des séparations, le plus souvent, le juge va statuer sur un niveau de pension alimentaire qui va tenir compte du niveau de vie du parent non gardien, on va dire le père, hein, le plus souvent. Et puis ensuite, ce sera à la mère créancière, celle qui a la garde, de faire les demandes de prestations sociales pour compléter son revenu. Mais ces demandes, elles ne sont pas automatiques. C'est quelque chose qui est difficile, qui peut être douloureux pour ces personnes. Et donc, les accompagner, les aider. Et puis, je pense que l'autre point qui est assez intéressant dans cette démarche, c'est aussi le côté de la visibilité sur ce à quoi on a droit. Je pensais, hein, notamment à la tarification sociale de certains services pour les enfants. Savoir qu'on a juste le statut de famille monoparentale et puis qu'on sera de toute façon considéré comme ayant accès à cette tarification sociale. C'est la cantine, hein, encore une fois, le Conseil de la famille a produit un très gros rapport sur la cantine scolaire, qui est un élément très important, mais il y a aussi l'accès aux loisirs, le périscolaire. Tous ces éléments-là sont très importants et ça peut aider au niveau local les mères isolées à avoir une plus grande, disons, visibilité sur leur niveau de vie.
Daniel Canalba, je rappelle que vous êtes maire et vous êtes à l'AMF en charge des questions de la petite enfance. On a entendu là, dans la voix de Stéphane Raffali, maire de Ris-Orangis, d'une idée d'accueil pour les enfants, pour le repos des parents. Là, Hélène Périvier nous parle de la cantine. Est-ce que c'est des choses dont s'empare l'AMF? Est-ce que c'est des choses dont vous vous emparez à titre personnel?
De toute évidence, l'Association des maires de France, elle a, je dirais, deux objectifs. C'est à la fois l'échange de bonnes pratiques entre les communes membres, et il y a quasiment toutes les communes de France qui y sont, mais aussi c'est de faire du plaidoyer auprès des parlementaires, auprès du gouvernement ou des administrations publiques de façon générale. On en dira peut-être un mot, d'ailleurs, ça a commencé à être évoqué sur les questions de pension alimentaire, mais vous avez raison d'évoquer le cas de Ris-Orangis qui a mis en œuvre finalement ce statut, qui est finalement pour moi une mise en visibilité pour ces familles, des dispositifs qui existent et dont elles peuvent effectivement bénéficier. Cette mise en visibilité, elle est absolument essentielle, puisque quand la charge mentale est importante, quand votre temps disponible est assez réduit, ben ce n'est pas rien, mine de rien, d'avoir une sorte de focale qui est mise en disant « vous avez droit à quelque chose ». Et demander, ce n'est pas en quelque sorte qu'émander, au contraire, c'est « vous y avez le droit » parce qu'on prend en compte le fait, on reconnaît les difficultés spécifiques que rencontrent les familles monoparentales. Ça, c'est un combat qu'ils portent et qui est très important. Et j'ajouterais que vous avez des situations assez diverses dont on peut évidemment discuter au groupe de travail Petite Enfance de l'AMF sur la question des horaires décalés. On a de plus en plus de communes, ça dépend évidemment de leur capacité aussi financière, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais qui mettent en œuvre, par exemple, un droit pour les personnes qui travaillent en horaires décalés. C'est souvent le cas de ces familles monoparentales, de pouvoir aussi avoir une solution de garde, par exemple dès 5h du matin ou 6h du matin, là où habituellement les crèches ou les solutions de garde vont être fermées. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe dans un certain nombre de communes. C'est intéressant de le constater. L'objectif pour l'AMF, dans ce cadre-là, c'est d'échanger ces bonnes pratiques, y compris de voir comment ça a été financé, pour savoir est-ce que c'est réplicable ailleurs. Ça ne l'est pas toujours, mais je tiens à dire que ce n'est pas forcément une prime seulement pour les grandes villes qui auraient une capacité financière à ouvrir des crèches sur des horaires décalés. C'est parfois aussi des solutions très concrètes. Dans ma commune, on a souhaité mettre en œuvre dès 2020 quasiment un hébergement d'urgence pour la situation qui venait d'être décrite pour des violences intrafamiliales. Cette solution, en vérité, elle n'est pas à la fois révolutionnaire, mais elle peut changer la vie des gens. On est allé la puiser dans des villes plus petites, d'ailleurs, que la mienne, qui fait à peu près 5000 habitants. Donc c'est cela aussi où moi je crois profondément à cet échange de bonnes pratiques, où finalement on cherche des solutions ensemble, parfois on tâtonne, mais quand on trouve des solutions qui marchent, on essaie aussi de les faire remonter à un autre niveau, et parfois, il est vrai, ça relève du législateur.
Dites-nous rapidement, quelles sont les réticences des maires à, par exemple, créer un statut spécial pour les familles monoparentales? Vos collègues, vos confrères, consoeurs maires de France, quelles sont leurs réticences? Pourquoi est-ce que certains seraient contre?
Alors deux choses, je pense qu'il peut y avoir la situation des maires qui ne souhaitent MIRE, je précise, ça pourrait être confusant, mais qui ne souhaitent pas effectivement coller une étiquette entre guillemets sur une situation familiale. Et donc je crois que c'est important de toujours rappeler que c'est évidemment aussi une dimension facultative, c'est ce que rappelle notamment un rapport sénatorial. Mais j'ajouterais que beaucoup de maires, c'est un peu comme Monsieur Jourdain avec la prose, en font sans forcément savoir qu'ils le font. Et notamment quand, au niveau intercommunal, on discute des critères d'attribution des logements, etc., en vérité, la question, elle revient quasi systématiquement parce que finalement, on part de la question des revenus, de la lutte contre la précarité, et que donc, ce sujet-là revient. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que tous les territoires, quelque part, connaissent ce sujet-là parce que c'est une lame de fond. Et je termine simplement mon propos en disant que je pense que parmi nos auditeurs, quasiment tous connaissent parmi leurs proches ou eux-mêmes une famille monoparentale. Et donc ce qui, dans les années 70, était il y avait à peu près 10% de familles monoparentales, pour l'essentiel d'ailleurs souvent des veuves. Aujourd'hui, on parle de 25% avec une très grande diversité de modèles familiaux.
Et une majorité de séparation.
Effectivement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on prend en compte aussi cette réalité-là. Et je dis, et je termine là-dessus, en disant que simplement, souvent les réalités sociales prennent du temps à se répercuter dans les réalités politiques.
Corinne Luxembourg, cela fait au moins plus de 5 minutes que vous demandez à la régie de prendre la parole. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, j'imagine, vous souhaitez réagir. On a parlé du logement, on a parlé notamment de ce que pouvaient faire les villes à l'accueil, et c'est ça que je souhaiterais vous demander. Qu'est-ce que c'est une bonne ville, une ville pensée pour un foyer monoparental, Corinne Luxembourg, selon vous? Je rappelle que vous travaillez sur l'aménagement du territoire.
Sur la question d'aménagement du territoire, en fait, il y a plusieurs choses. Juste pour revenir un tout petit peu sur ce qui était en question tout à l'heure, sur l'accès aux données ou des choses comme ça, il y a des choses sur lesquelles on a effectivement très peu de données. C'est par exemple les familles qui sont en séparation, mais qui n'ont pas les capacités de la décohabitation pour des raisons financières. Et que ce soit des situations qui soient conflictuelles et dangereuses, comme les violences intrafamiliales, ou des séparations qui se passent le mieux possible, c'est-à-dire sans violence, mais voilà, donc avec séparation, où finalement les revenus des femmes ne leur permettent pas de décohabiter. Et là, on a finalement assez peu de données, mais ça veut dire quand même que l'on maintient des gens qui, a priori, ont plus très envie de se voir dans une situation de proximité et d'intimité qui est pas toujours très confortable. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement ce qu'on peut faire pour ces familles monoparentales. Il y a effectivement la question de la place de l'enfant qui me semble absolument fondamentale. Effectivement, pour reprendre son souffle et aller mieux, mais aussi parce qu'on est dans une société qui de plus en plus fait porter des charges morales, mentales, sur ces femmes à qui on dit « Ah, mais ton enfant était trop tard la nuit dehors ». Et effectivement, alors s'il y a des dispositifs comme celui que Monsieur le maire vient d'évoquer, c'est très bien, mais sauf que ce n'est pas le cas, évidemment, partout, loin s'en faut. Et que l'on va faire porter une culpabilité, une culpabilisation aux femmes de ne pas être en capacité de tenir leurs enfants et qui vont traîner trop tard le soir et à qui on va faire porter cette responsabilité, alors que justement les horaires décalés qui sont ceux du commerce des supermarchés par exemple, hein, il n'y a pas que les hôpitaux en horaires décalés, il y a beaucoup d'horaires qui sont devenus décalés qui ne l'étaient pas auparavant juste pour avoir accès à ces services et à une proximité plus grande. Ces choses-là ne sont rarement prises en compte, et donc une ville qui ferait cette attention à cela serait déjà forcément plus attentive. Donc ce qui veut dire être attentive autant au maire que
MERES, cette fois-ci, oui.
voilà, et à leurs enfants, c'est-à-dire qu'éviter de leur faire porter la nécessité ou la charge d'une surveillance supplémentaire et faire en sorte que les enfants puissent devenir un peu plus autonomes et qu'on puisse leur faire confiance aussi et qu'on ait moins ce regard de défiance vis-à-vis de la jeunesse, peut aussi faire que la ville irait mieux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi se dire que l'éducation des enfants, elle relève de la communauté et pas seulement de leurs parents seuls. Et que faire attention aux enfants, globalement, collectivement, c'est aussi un projet politique.
Je voudrais vous faire réagir là-dessus, Monia Lisa Douadi. Prendre soin des foyers monoparentaux, penser la ville pour les foyers monoparentaux, c'est aussi penser à la place de l'enfant dans la ville ?
Clairement, clairement. D'ailleurs, nous, on fait partie de la Convention citoyenne des temps de l'enfant là qui vient d'être mise en place par le CESE. Et on a rappelé l'importance, et je rejoins complètement les propos qui viennent d'être tenus, sur le fait que tous les comme dit le proverbe, il faut un village pour élever un enfant. Et en fait, tous les acteurs de la société doivent être mis à contribution. Pour cette histoire d'horaire décalé, nous, on travaille aussi sur la sensibilisation, voire même l'évangélisation des entreprises pour leur faire comprendre que leurs salariés sont aussi des parents et qu'il y a des moments dans leur vie où c'est plus compliqué de partir après 18h parce que, précisément, l'école finit à 18h. Sur la question du statut parent isolé, statut communal, national ou communal, nous on est favorable sur les deux, enfin les deux dispositifs nous semblent intéressants. D'une part, c'est intéressant d'avoir une prise de conscience, comme le rappelait Hélène Périvier, d'avoir une prise de conscience nationale avec une espèce de dynamique qui partirait à la fois de l'État, mais qui soit évidemment, je rejoins Eric, sur qui soit relayé par les collectivités, mais de façon précise, comme vous l'avez signalé. Quand ça arrive dans les communes, à la façon de Ris-Orangis, d'ailleurs, je salue Semira Le Kérec, la maire adjointe de Ris-Orangis, qui est membre d'honneur de l'asso, avec qui on a beaucoup travaillé, et évidemment Stéphane Raffali. Mais ça nécessite un travail de cartographie précis du territoire, avec une offre qui soit en adéquation, effectivement.
Alors non, mais sur la question de l'échelle, c'est très intéressant. Il y a une loi transpartisane qui devait être présentée à l'Assemblée nationale, transpartisane à l'exception du Rassemblement national, et loi qui a été victime de la dissolution de l'an passé, qui était portée par le député Philippe Brun, qu'on a entendu en début d'émission. Cette loi, ce que nous on a trouvé intéressant à question du soir, c'est que elle a été fabriquée de manière presque horizontale, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, en proposant des votes, en essayant de comprendre quelles étaient les amendements qui étaient proposés autour de cette loi. Où en est-on un an plus tard de cette affaire, Monia Lisa Douadi?
Alors, on connaît très bien le sujet, parce que nous, on était présents à la co-construction. En tout cas, on a fait des groupes de travail. On avait 80 parents solos qui ont travaillé sur cette loi et on a restitué très officiellement à la délégation transpartisane de députés. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'encore une fois que toutes les... Alors, là où la difficulté qu'on a rencontrée, comme chaque fois, c'est de circonscrire, de définir précisément ce qu'est un foyer, une famille, un parent solo, dans la mesure aujourd'hui où les dispositifs sociaux d'État sont un tout petit peu en retard par rapport aux évolutions des familles, tout simplement. Mais ça nous semble intéressant parce que ça peut démarrer... Enfin, aujourd'hui, on n'a pas de... La proposition de loi n'existe plus. Enfin, elle est plus d'actualité, en tout cas. Elle n'a pas été présentée dans une niche parlementaire. Et aujourd'hui... Sans faire de mauvais esprits, on reparle un peu du sujet parce qu'effectivement, on est à un an des municipales et donc le sujet de la monoparentalité revient un peu par capillarité par les maires et par les candidats aux élections. Mais aujourd'hui, le statut parent isolé ne nous semble pas national, ne nous semble pas être à nouveau sur la table. On a plus de nouvelles.
Hélène Périvier, on parle d'échelle, on parle également d'exemples de villes. Quelles initiatives ailleurs en Europe y a-t-il ? Est-ce qu'il y a des endroits où aller puiser des idées, des endroits qui ont déjà une expertise, qui seraient en avance sur la France au propos des foyers monoparentaux ?
Alors, s'agissant des collectivités locales, je pense qu'il y a une très grande diversité. Alors, on l'a dit déjà sur le territoire français et puis à l'international, très clairement. Ensuite, il y a des pays qui sont plus en avance pour prendre en charge, notamment, on en a parlé un peu, mais qui sont très liés à la situation de monoparentalité. Même si c'est pas du tout le seul élément, mais par exemple les situations de violence, je pense notamment à l'Espagne qui a des politiques très à l'avant-garde par rapport à la France sur le traitement de ces violences intrafamiliales. Et puis vous avez des pays pays qui plus en avant, les pays nordiques hein, qui sont traditionnellement plus en avance sur la prise en compte d'abord de l'égalité femmes-hommes. Et on voit bien, ça a été dit, hein, tout ce dont on parle là, c'est quand même très lié à aux inégalités entre les femmes et les hommes, l'inégal partage des tâches domestiques et familiales dans les couples. C'est ce qui explique, et ça a été dit, hein, qu'au moment de la rupture, les femmes subissent une perte de niveau de vie beaucoup plus importante que les hommes. Donc, tous ces éléments-là qui sont très structurants, bah, les pays dans lesquels il y a une attention particulière qui est portée à ce partage des tâches parentales, y compris dans les couples, bah, c'est des pays qui déjà anticipent beaucoup mieux les problèmes que peuvent rencontrer les parents quand ils se retrouvent dans une situation de monoparentalité.
Daniel Candalba.
Oui, je dirais qu'à l'échelle locale, pourquoi il y a une prise en charge assez, qui existe parfois de longue date sur certains territoires, parce qu'on y est très directement confronté. Et que quand vous êtes directement interpellé par des familles, vous cherchez des solutions concrètes. Néanmoins, j'entends dans les différentes solutions qui sont proposées des choses qui sont extrêmement intéressantes, y compris sur d'autres parties du territoire ou ailleurs en Europe. Il reste néanmoins un enjeu financier assez crucial. Et je donne juste un exemple sur la petite enfance. On a actuellement, les communes deviennent depuis le 1er janvier dernier, finalement des autorités organisatrices de la petite enfance, de l'aveu même de l'État. Cette réforme aura donc un coût. L'État a prévu 50% de compensation. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour que les maires se plaignent éternellement, mais ça donne quand même une illustration concrète que, effectivement, ça a un coût derrière de pouvoir suivre les enfants, leur permettre de s'épanouir. Et je rejoins totalement ce qui a été dit sur le fait que l'ambition qui est la nôtre, in fine, c'est quels que soient les modèles familiaux, la diversité des familles, il faut qu'elles puissent s'épanouir dans notre République.
Corinne Luxembourg, très rapidement.
Oui, juste un dernier mot, parce que on parle beaucoup de que faire pour cette ville et quelle ville on aurait besoin et envie. Il y a surtout aussi tous les dispositifs de démocratie participative auxquels souvent les familles monoparentales ne peuvent pas participer. Et des choses qui, pour le coup, ne coûtent pas, parce que les réunions tard le soir, elles sont pas accessibles quand on a enchaîné la journée de travail plus s'occuper des enfants. Et donc des choses qui peuvent coûter finalement assez peu, c'est d'organiser justement ces éléments de, enfin ces périodes de démocratie participative ou ces réunions avec des gardes d'enfants et qui permettent aussi d'entendre la voix des familles monoparentales quand on décide de construire la ville, parce que justement elles en font partie et que souvent on les entend pas ou peu alors qu'on l'a fait aussi pour elles.
Mounia, Lisa Douadi.
Oui, rapidement, en Europe, juste pour rappeler qu'en Europe, l'Espagne est le premier, enfin la Catalogne est le premier pays à avoir créé un statut légal de parents isolés entre guillemets, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Ça, la question de la charge mentale et du temps dans la ville, elle est fondamentale, parce qu'en fait il y a un sujet de déplacement dans la ville, il y a un sujet d'horaire de travail, on en a parlé, il y a un sujet de
logement,
tout simplement
adéquat.
De logement. Donc en fait la ville, elle est en première ligne pour comment dire, les leviers locaux sont vraiment les premiers leviers qu'on peut actionner pour améliorer encore une fois le quotidien de ces familles, parce que un statut national, pourquoi pas, mais si en effet c'est juste un gadget électoral qui derrière n'ouvre droit à rien, c'est insupportable pour les familles qui effectivement sont dans la précarité et qui ont vraiment besoin qu'on agisse sur des leviers du quotidien. La question de la garde d'enfants et la question des réunions, de l'investissement, de la visibilité, elle est terrible, parce que moi j'ai créé cette association il y a 8 ans. C'était pas tout à fait une association, c'était un collectif, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les familles monoparentales, elles se cachent en plus. Elles ne participent pas, vous l'avez peut-être vu, vous acquiescez, Eric, elles participent pas aux réunions, il y a une forme de honte, on se montre pas, on avoue pas ses difficultés. Simplement, petit à petit, on disparaît de l'espace public, parce qu'en fait, les difficultés s'empilent, et puis on n'ose pas inviter chez soi parce qu'on dort dans le salon, etc., etc. Et ça, la visibilité dans la ville, ça, c'est fondamental.
Eh bien, espérons que le sujet, la thématique des foyers monoparentaux a été rendu visible au moins pour 45 minutes sur France Culture, et peut-être un peu plus, nous le souhaitons. C'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre. Mounia Lisa Douadi, je le rappelle, vous êtes fondatrice et présidente de l'Association des familles monoparentales, administratrice de la Fédération syndicale des familles. Merci d'être venue. Daniel Candalba, maire de L'Étang-la-Ville dans les Yvelines, et également coprésident du groupe de travail et sur la petite enfance. On a compris que c'était important, la question de la petite enfance, comment elle se rattachait à la question des foyers monoparentaux, à l'Association des maires de France. Corinne Luxembourg, professeure de géographie et aménagement à l'Université de Sorbonne Paris-Nord, et Hélène Périvier, économiste, directrice de recherche à l'OFCE. Vous êtes en charge de l'évaluation des politiques sociales et familiales. L'émission de ce soir a été préparée par Paul Venarter, Aloïs Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Théa Corlaire, Modiaïch, Alice Chavaran, Vivian Le Cuivre et Fan Montet à la réalisation. La technique ce soir, Ludovic Auger. Demain, nous, on se retrouve pour une autre question du soir. La lutte des âges a-t-elle remplacé la lutte des classes? En attendant, bonne soirée sur France Culture.